Avant de lire les textes bibliques, je vous invite à prier avec la prière proposée par l'Église réformée de Madagascar. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence divine pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta sainte volonté et à ta justice permanente et indestructible. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Que ta parole soit gravée dans notre esprit et dans notre cœur et qu'elle ne revienne pas à toi sans avoir accompli son effet en nous. Parle, ô Père, car nous l'écoutons. Au nom de Jésus, la parole faite chair. Amen. Nous avons deux lectures ce matin. Notre première lecture est tirée de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes au tout début de la lettre. Paul y expose la parole de la croix, expliquant que la sagesse de Dieu s'exprime à la croix, qui est pourtant une folie pour les hommes. Notre passage est juste après. Nous lisons donc, dans 1 Corinthiens, les versets 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. C'est l'une des 9 béatitudes, ces paroles qui commencent par « Heureux ceux qui » que Jésus a prononcées dans son sermon sur la montagne. Nous lisons dans Matthieu 5, le verset 6. Attention, c'est très court. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
Je vais relire 2 versets de la première aux Corinthiens que nous avons entendus. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Frères et sœurs, avec ce texte de Paul aux chrétiens de Corinthe, nous sommes propulsés ce matin dans la logique paradoxale de l'œuvre de salut de Dieu. Cette œuvre de salut de Dieu culmine à la croix du Golgotha. Lorsque Jésus meurt, afin que nous ayons la vie. Déjà là, on comprend le paradoxe. Pour que nous vivions, pour que nous soyons sauvés, puisque vivre, en termes bibliques, c'est être avec Dieu, eh bien, pour que nous vivions, pour que nous soyons sauvés, Dieu consent que son Fils meure et qu'il se perde dans la mort. C'est cet événement de la croix qui est au centre de la prédication de Paul. Paul ne fait que parler de la croix. Il le décline de mille façons. Et c'est cet événement de la croix qui est au centre de notre foi. Et qu'est-ce qui se passe à la croix du Golgotha ? Dieu renverse tout. Il a choisi de manifester son amour en souffrant. Il a choisi de manifester sa gloire en s'humiliant. N'oublions jamais que la croix, à cette époque-là, la mort sur la croix était un supplice infâme, la pire des morts qu'on pouvait infliger au pire des malfaiteurs. Et Dieu, pour donner la vie, pour nous donner la vie éternelle qui ne s'arrête pas, choisit de mourir. Alors, cette logique de Dieu n'est pas la nôtre, c'est évident. Personne ne va s'humilier pour être glorifié, etc. Et c'est bien parce que cette logique n'est pas la nôtre que Paul parle de la folie de la prédication de la croix. Parce qu'il y a quelque chose d'insensé, qui n'est pas raisonnable selon nos critères humains. Et juste avant, Paul disait que cette folie de la croix est un scandale. Cet événement paradoxal de la croix est un scandale pour les Juifs. Dieu ne peut pas se donner ainsi, scandaleusement. Et elle est folie pour les païens, pour les non-croyants. Alors, quel est ce Dieu qui renverse les codes ? Eh bien, frères et sœurs, c'est le Dieu qui nous appelle, vous, moi, qui nous appelle à vivre nous aussi dans cette logique paradoxale, dans cette folie à vue humaine. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont. Il nous faut comprendre que quand on parle de juste et de justice, nous ne pouvons pas le connaître sur cette terre. Il n'y a, si nous sommes honnêtes, rien de juste ici-bas, et pas de justice. La justice, c'est une des caractéristiques du royaume de Dieu. Vous vous souvenez de ce verset, Matthieu 6, 33 ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Seul Dieu est fondamentalement juste. Seul lui peut fondamentalement faire justice, selon une logique qui n'est même pas la nôtre. Même quand on parle de justice, ce n'est pas encore celle de Dieu. Notre espérance, c'est que le jour viendra où toute injustice sera jugée lorsque le royaume sera pleinement établi. Alors oui, c'est vrai, nous vivons dans un monde plus que jamais inégal, avec des puissants, toujours plus puissants. La puissance, elle est financière, elle est politique, elle est de multiples façons, et avec des faibles, toujours plus faibles, toujours plus pauvres, toujours plus oppressés, toujours plus victimes, etc. Bien sûr, vous allez me dire, de tout temps, l'humanité a connu des injustices. Oui. Mais est-ce qu'elles ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'atteindre des records d'injustice, d'inégalité folle, immense? Je vais vous lire des statistiques qui nous disent notre réalité. Les recherches récentes sur la répartition des richesses montrent qu'une poignée de personnes détient une part colossale des biens de la planète. Les quelques 0,001%, 0,001%, les plus riches, ça représente environ 56 000 personnes à l'échelle des 8 milliards et quelques d'individus, eh bien ces personnes possèdent à elles seules 3 fois plus que la moitié, donc que le 50% la plus pauvre de l'humanité. Et les 10% les plus riches, donc on élargit un peu, on prend les 10% les plus riches, eh bien, ils concentrent environ 75% de la richesse mondiale, ne laissant que à peine 2% de la richesse mondiale aux 50% les plus pauvres. Vous voyez le vertige ? C'est notre monde. Alors plus que jamais, les chrétiens sont appelés à voir le monde, cette réalité-là, à agir selon cette logique inversée, paradoxale de Dieu, de la croix. Ça veut dire être du côté des plus pauvres et des plus méprisés. Ça veut dire vivre dans la logique du royaume où les derniers seront les premiers. Et si nous sommes parmi les privilégiés de ce monde, de réaliser que nous serons peut-être les derniers. Il y a 3 versets bibliques que je voulais vous citer dans cette logique, mais il y en a tellement d'autres. Matthieu 5, 3, toujours dans les Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 11, 25, prière de Jésus, « Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. » Dieu pour les petits, pour les faibles. Et puis, dans le Magnificat de Marie, Luc 1, 52, Marie prophétise magnifiquement en disant « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Ça, c'est la logique du royaume de Dieu. Je vais vous raconter une anecdote personnelle pour illustrer un petit peu ce que peut être à notre niveau de vivre dans cette logique. Alors, ce n'est pas du tout pour me jeter des fleurs, mais cette anecdote m'est revenue en préparant cette prédication il y a de cela bien, bien longtemps, bien des années. Je travaillais encore dans le milieu bancaire et puis une des activités qui donnait sens à ma vie était de travailler pour une association dans le thème du développement durable et puis je donnais des formations. Donc j'ai pas mal voyagé avec une amie dans des coins comme ça du monde pour donner des formations en usine. Donc on était sur des usines assez florissantes et puis on formait sur un thème précis les employés. Donc on partait une semaine comme ça. Et puis on est allé une fois, donc il se trouve que c'était à Madagascar. Bon, c'était pas le seul pays où on était, mais je m'en souviens parce que comme c'est un pays que je connais bien, pour y avoir grandi, y avoir été, très vite concerné par la misère, on logeait, donc payé par l'usine, dans une superbe maison d'hôte. On était dans des conditions vraiment parmi les puissants, on va dire, hein, dans la logique qu'on vient de voir. Et puis, dans cet hôtel, dans cette maison d'hôte, il y avait un gardien. avec qui j'ai sympathisé. Il était vraiment sympathique. Et voilà, on a discuté comme ça tout au long de la semaine. Il me racontait un peu sa vie. Je posais des questions, voilà. Et à la fin du séjour, ben je lui offre 2 tablettes de chocolat. De chocolat de Madagascar, hein, rien d'extraordinaire, pour lui dire au revoir et le remercier. Mais quelle ne fut pas la réaction de ma collègue à ce geste ? Et elle m'a dit une phrase qui est restée dans les annales familiales. Elle m'a dit « Non, mais t'as pas les codes. » Et ça m'avait vraiment marqué de me dire « Je les connais, les codes. » Je les connaissais autant qu'elle, mais je les transgressais volontairement parce qu'au fond de moi, j'avais cette logique du royaume de me dire « Mais c'est mon frère, ce gardien. Ce n'est pas parce qu'il est au bas de l'échelle et qu'il est, comme en Inde, intouchable, on va dire, que je ne peux pas lui offrir une tablette de chocolat comme j'en offrirais à ma cousine. Ou... » Donc, t'as pas les codes. Oui, c'est vrai que, est-ce que, en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à justement ne pas avoir les codes, à transgresser, être dans la subversion à laquelle l'Évangile nous appelle. N'oublions jamais que la pauvreté dans l'Évangile est une richesse, encore un paradoxe, car elle rend prêt à recevoir quelque chose. Quand on a tout, on est saturé. Elle rend conscient que le salut ne vient pas de soi, mais de Dieu seul. De la même façon, la faiblesse dans l'Évangile est une force. Marie, toute faible qu'elle était, a été choisie par Dieu. Moïse a été choisi par Dieu, tout faible qu'il était, tout bègue qu'il était, pour être la puissance à travers lequel Dieu allait libérer son peuple de Pharaon. Jésus a été faible jusqu'à la croix, face aux puissants religieux et aux puissants romains. Peut-être plus proche dans l'histoire, on en a parlé au camp de marche, Isabeau Vincent, une petite prophétesse de 15 ans dans la Drôme au 17, à la fin du XVIIe siècle en France, après la révocation de l'édit de Nantes, illettrée, qui ne parlait que le patois du coin et qui se met la nuit à prophétiser en bon français académique. Dieu choisit les faibles pour exprimer sa force, sa puissance, la logique de son royaume qui renverse. Alors pour revenir à notre monde, nos églises sœurs du sud global, on appelle comme ça le sud global, ben nous rappellent l'injustice qui règne dans le monde. En permanence. Ces églises, ces frères et sœurs, d'ailleurs, nous interpellent et nous encouragent aussi. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Oui, ceux qui sont heureux, les bienheureux, sont en opposition avec le monde et ses principes, ses codes, ses valeurs. Nous sommes bienheureux si nous vivons, nous agissons, nous réfléchissons dans cette logique paradoxale. Alors c'est un appel pour nous à persévérer dans le fait de penser à contre-courant. N'ayons pas peur de nous sentir différents. C'est la logique de l'Évangile. Souvenons-nous que la sagesse de Dieu est folie pour le monde. L'Église dont nous sommes membres, qu'elle soit locale ici, ou mondiale et universelle, elle est appelée, cette Église, à être le signe de la présence du Seigneur dans la lutte pour une société plus juste et plus humaine. Parce que c'est la volonté fondamentale de Dieu, dans son amour, que la justice règne. Et il l'a fait à la croix. Jésus, le juste, a été crucifié pour l'injustice des hommes. Alors que cette folie de la croix soit notre moteur, si on peut le dire comme ça, et que le Seigneur nous y aide, parce qu'il y a du bonheur bienheureux serons-nous si nous vivons de ce paradoxe fou de Dieu. Amen.